Good evening business. Le débat.
18h22 sur BFM Business, et donc l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, qui est avec nous. Bonsoir Madame Lepage, bonsoir. Pour parler de cette COP27, voilà, qui débute dimanche du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est la grande question que se pose. Comment est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique peut aujourd'hui s'accommoder de la crise énergétique actuelle? Est-ce que la cause peut y résister dans la tourmente actuelle, Corinne Lepage?
Ça devrait être une formidable occasion pour changer. Je veux dire, moi, c'est pas comme ça que je pose la question.
Alors, on peut le voir aussi, on peut le voir des deux façons.
Je pense que ce serait une formidable occasion de changer. Parce que là, on est le dos au mur. On n'a plus le gaz russe, beaucoup moins. Le pétrole est très cher, l'énergie est très chère. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est l'autonomie énergétique, avec un développement massif du renouvelable, et la sobriété.
Oui.
Donc c'est une formidable occasion de changer, mais avec effectivement des conséquences très lourdes parce que nous ne sommes pas prêts.
On ne vivait pas l'an dernier déjà lors de la COP26, c'était à Glasgow, on vivait une crise énergétique mais pas dans la même proportion. On a l'impression que l'accord sur le charbon qui en est ressorti l'an dernier est déjà caduque aujourd'hui pour des raisons qu'on comprend aisément.
On voit bien par exemple que le groupement qui regroupe les financiers pour le climat qui a été mis en place par l'ancien...
Marc Carney, hein.
Oui, ouais. L'ancien directeur de la Banque d'Angleterre, a beaucoup de mal parce qu'il y a des banques qui continuent à regarder vers le charbon. Parce qu'il faut résister dans les médias. Sauf que vous voyez bien qu'on est sur une orientation de 2,6 à 2,8 degrés planète complète. Bon, avec des grandes différences, parce qu'on sait très bien que quand on dit planète complète, c'est beaucoup plus sur les territoires que sur la mer.
Oui.
Et nous, en Europe, vous avez vu l'étude qui est sortie il y a quelques jours, c'est l'addition est double.
Oui.
C'est-à-dire que nous, on est sur un trend d'augmentation de 0,5 par décennie. On est à 1,8 degré. Et on sait déjà que ce que nous avons fait jusqu'à présent nous emmène jusque vers 2035. Donc, on est parti pour 2,3 degrés. 2,3 degrés, puisqu'on est à 8, en gros en France, d'ici 2030-2035. Je ne vois pas comment on va faire autrement.
Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'argent est le nerf de la guerre? On se souvient de l'objectif affiché, mobiliser 100 milliards de dollars par an.
Oui.
Là, je vous repose la question tout à l'heure. Est-ce que dans le contexte économique actuel des grandes économies développées, est-ce qu'on a l'argent aujourd'hui?
Mais oui, bien sûr. Cette histoire du fonds vert de 100 milliards, c'est quand même assez scandaleux. C'est quelque chose qui a été prévu à Copenhague 2009.
Ouais.
On est en 2022, d'accord? On n'est toujours pas foutu capable de mobiliser cette somme. C'est absolument inadmissible. Regardez, l'Europe mobilise 1500 milliards de dollars, rien que l'Europe.
Oui.
1500 milliards de dollars, si on met tout confondu, pour assurer la transition énergétique, digitale, etc., de l'Europe. Les États-Unis viennent de mettre combien de milliards de dollars sur la table? L'Allemagne vient de mettre 200 milliards pour sauver ces entreprises. Et on trouve que 100 milliards, c'est quelque chose d'absolument...
Ce sont les préoccupations du moment, Mme Lepage, pour chaque État. Oui. Effectivement, vous l'avez bien vu en Europe.
C'est bien possible.
Oui.
Mais vous voyez bien que les États du Sud, les pays du Sud ne feront rien de sérieux, et on peut les comprendre, tant qu'ils n'auront pas un accord sur les réparations. Les gens qui habitent les petites îles, ou même les gens du Bangladesh, ou même les gens du Pakistan... Tous ces gens qui sont amenés à partir maintenant ou un peu plus tard, on fait comment avec eux? Pourquoi voulez-vous que ces gens-là investissent quoi que ce soit, fassent quelque effort que ce soit pour se limiter s'ils n'ont aucun engagement des autres qui, eux, sont responsables de la situation alors qu'ils ne le sont pas? Pour les aider.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette COP? Est-ce qu'il faut attendre les 15 jours? Alors, on connaît l'histoire, c'est le communiqué final qui sort, qui est plus ou moins ambitieux. C'est là que ça se joue ou c'est pendant ces 15 jours, fondamentalement, que ça se joue?
Alors, il faut bien comprendre que ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le segment ministériel, c'est-à-dire du mercredi au samedi, de la deuxième semaine.
Ah oui, ça vous parlez en connaissance de cause, là, vous savez.
Oui, mais j'en ai fait 7 ou 8 dans ma vie, donc j'ai un peu vu comment ça marchait. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses en souterrain jusque-là. Mais vraiment, c'est vraiment sérieux, c'est le segment ministériel, c'est du mercredi soir au vendredi soir. Généralement, on tire un peu sur le samedi, ce qui n'est pas pratique parce que les gens ont pris leur billet d'avion. Enfin, je passe sur les détails.
Ouais.
Voilà, c'est à ce moment-là que ça se corse.
Ça se matérialise, ça se corse, non, ça se corse.
Ça se corse et.
Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette séquence?
Ben, si vous voulez, on arrive au... Il y a eu des négociations, donc il y a des discussions, donc il y a des textes. Il y a des textes avec des passages de textes entre parenthèses. C'est ces parenthèses-là qui font problème et qui sont négociées par les négociateurs. D'accord ? Et donc, c'est vraiment dans les derniers moments qu'on voit si on arrive à un accord ou on n'arrive pas à un accord.
Pardon, c'est là qu'on parle d'argent ou pas, concrètement ?
On parle d'argent, bien sûr.
Et c'est là que ça se corse.
Mais bien sûr. Et à mon avis, si on peut avoir un résultat positif de cette conférence de Sharm el-Sheikh, c'est d'atteindre les 100 milliards. On est à 83 ou à 84. C'est pas possible, franchement. C'est pas sérieux.
Donc il va falloir convaincre les pays développés aujourd'hui dans la panade sur le plan économique de mettre davantage au pot.
Oui.
C'est l'argument qu'elles vont poser. C'est dur en ce moment.
Ben oui, c'est dur, c'est vrai. Mais plus le changement climatique va se développer et plus les coûts vont être importants et plus les conséquences financières et économiques vont être importantes.
Et plus on arrive à se parler difficilement entre le nord et le sud de la planète aujourd'hui.
Mais bien sûr, parce qu'il y a un ressentiment qui est terrible. Mettez-vous dans la peau d'un pauvre gars du Pakistan ou du Bangladesh qui est totalement inondé. Et qui dépense, lui, quelques kilos de CO2 par an pour subsister, et qui subit les effets de ce que d'autres qui vivent, pour lui, richement, même si ce n'est pas le cas, ont fait pour qu'il en arrive là. Donc il faut vraiment prendre en considération la question du Sud. Je pense que c'est vraiment le cœur du débat de cette COP.
C'est une COP africaine, puisque ça se passe en Égypte. En guise de conclusion, ça va se passer cette année comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va avoir un psychodrame et puis un communiqué qui va tomber après des heures et des heures de négociations jusqu'au bout de la nuit.
Probablement. Mon expérience, c'est qu'en dehors des accords de Paris, donc de COP21, qui est à part, où on a vraiment fait quelque chose de très important, généralement, on obtient ce qu'il faut pour qu'il y ait une nouvelle COP.
Rien que
ça. Mais pas beaucoup plus.
Donc on discutera jusqu'au bout de la nuit pendant l'issue de ces 15 jours. Merci beaucoup Corinne Lepage.
Merci à vous. Venue
décrire le décor. L'avocate et ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup Corinne Lepage. À très vite. 18h29, les grands titres de l'actu dans un instant, puis le grand débat jusqu'à 19h sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business. Le débat.
Avec nos invités du vendredi, Christian Saint-Étienne est avec nous. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Bienvenue, professeur au CNAM et membre du cercle des économistes Guillaume Autier. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Guillaume.
Président du groupe Meilleur Taux et puis Frédéric Farah. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Économiste, chercheur, enseignant, Panthéon Sorbonne. Corinne Lepage était avec nous, elle est optimiste. Il va déboucher quelque chose de cette COP27. Je vous pose la question, est-ce que vous attendez quelque chose de la COP27 dans ce contexte de crise énergétique? Est-ce que la cause peut y survivre finalement, la transition énergétique? Christian Saint-Étienne, comment est-ce que vous regardez ça vous?
On ne va pas parler du vrai sujet, qui est que la pollution est essentiellement produite en Chine et en Inde.
Eh oui.
On va continuer de taper sur les Européens. J'ai les chiffres qui n'intéressent personne. En 2025, la Chine produira 35% de la production mondiale, des émissions mondiales de CO2, contre 13% pour les États-Unis, 9% pour l'Inde et 7,5% pour l'Union européenne. C'est-à-dire que la Chine va produire 5 fois les émissions de CO2 de l'Union européenne à 27 en 2025. Et quand vous faites la somme des États-Unis, de l'Inde et de l'Union européenne, c'est beaucoup moins que la Chine toute seule. Et si vous prenez la Chine plus l'Inde, si vous prenez l'Asie en 2030, c'est 60% des émissions de CO2. Alors on aimerait bien que... moi, je suis totalement favorable à la transition énergétique... D'ailleurs, si on veut vraiment faire la transition énergétique, il faudrait dire qu'on a besoin de doubler la production électrique en France les 20 ans qui viennent. Il n'y a aucun plan proposé par le gouvernement de doublement de la production d'électricité, surtout si on veut pousser les voitures électriques. Mais ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui se collent à des tableaux dans les musées aillent faire la même chose à Pékin. C'est ça qu'il faudrait faire, puisque c'est là qu'est la pollution.
Frédéric Farah.
Alors, moi, je partage très largement, je veux dire, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la COP21 aujourd'hui, quelles sont les avancées réel, on peut s'interroger.
On va faire le bilan de l'accord de Paris de 2015, effectivement, ça risque de piquer un peu quand même.
Voilà, donc ça c'est un. Et deux, effectivement, on se retrouve dans le problème où la pollution, évidemment, vient aujourd'hui de ce qu'on appelle les émergents, mais qui ont émergé, c'est-à-dire Inde et Chine. Et ça nous fait montrer quoi ? Finalement, que le scénario de la transition énergétique, parce que le terme transition, on laisse entendre que ça va bien se passer, ça se fait lentement, sûrement, tranquillement. En fait, tout ça se fait de manière très chaotique, dans le fond, avec une crise énergétique qui est celle-ci. Et en fait, on se retrouve où cette instance, ces fameuses COP, vont être tout aussi paralysées que l'est maintenant, dans un autre domaine, l'OMC. C'est-à-dire, c'est en fait, tout ce qui sert de régulation au niveau international rencontre la paralysie. Et l'OMC, pourquoi le cycle de Doha aussi n'a jamais abouti, c'est aussi parce qu'il y avait une tension entre, on va dire, les pays européens, les États-Unis et les émergents. Et là, on retrouve la même chose. Donc en fait, tout ce qui pourrait servir à peu près de gouvernance au niveau mondial, soit donne peu de résultats, soit se grippe, soit effectivement vise les mauvaises cibles. Donc, ce qui fait que, et en plus, tout ça se fait dans un contexte qui n'est pas du tout favorable pour ce genre de rencontre.
On se demande si ça va pas se passer comme d'habitude, 15 jours de débat, et puis au bout de la nuit, un communiqué qui va sortir avec des objectifs qu'on saluera, mais qui ne seront pas réalistes. Voilà, ça risque de se passer comme ça.
C'est
encore,
c'est un scénario, une pièce dont on a un peu l'habitude.
Bah, c'est un peu ça, bien sûr.
Déclaration.
Rappelez-vous les larmes de Laurent Fabius en 2015 au bout de la nuit. Voilà,
donc, je pense qu'on va probablement assister à peu près à la même scénographie, mais je pense que l'exercice, il se heurte à trois limites très claires. La première, c'est celle qu'on a dite, c'est-à-dire que ceux qui prennent les engagements sont fondamentalement sur un sujet qui est une petite partie de l'enjeu, et l'enjeu il est plutôt en effet concentré en Chine et en Inde. La deuxième limite, me semble-t-il, c'est que en Europe, on pourra évidemment prendre des engagements, mais c'est sûr que pour les mettre en œuvre, l'enjeu en termes de finances publiques n'est absolument pas soutenable.
Bien sûr.
On a des finances publiques totalement exsangues. Et d'ailleurs, de ce point de vue, probablement, la meilleure mesure qu'on peut prendre pour préparer la transition écologique, c'est de commencer dès à présent à faire un ménage très important dans les finances publiques. Et d'abord, évidemment, les dépenses de transfert. Et si on ne le fait pas, c'est clair que tous les engagements qu'on prend, en fait, vont rester lettre morte parce qu'on ne pourra pas les soutenir. Et je dirais, la troisième limite, c'est que on a des opinions qui manifestent, qui vont dire il faut agir. Et puis voilà, il y a un peu d'agitation là-dessus. Mais en réalité, on a des sociétés qui probablement ne sont pas prêtes à faire les efforts de ce que représentent vraiment les mesures dont nous parlons, c'est-à-dire une économie qui produit moins, une économie qui consomme moins d'énergie. C'est une économie où tout le monde est plus pauvre. Alors c'est évidemment sympathique d'expliquer qu'on va acheter ces asperges trois fois le prix par des circuits courts, mais encore faut-il que l'économie puisse produire de quoi les payer, et je pense qu'on n'a pas des opinions publiques qui sont prêtes à faire les sacrifices que représente vraiment la transition écologique.
On va parler de la voiture électrique dans un instant. Oui, Christian, vous voulez intervenir.
Non, je voulais juste ajouter qu'il y a un domaine qu'on touche peu, on en cause depuis 25 ans, mais on en touche peu, c'est le logement.
Oui.
Or, on a eu des ministres écologistes dans les 25 dernières années. On n'a jamais vu un plan rationnel national de traitement de ce problème. Alors,
logement, première source d'émissions de CO2 en France.
Oui, pardon ?
Logement, première source d'émissions de CO2 en France,
absolument.
Évidemment, rappelons-le.
Et de l'ordre de plus de 25%.
Ouais, ouais.
On a longtemps rêvé. Moi, je suis plutôt libéral politique, pas libéral économique, au sens où je pense qu'il y a un rôle très important de l'État qu'il faut jouer. Mais on a rêvé en se disant que c'est les individus qui allaient isoler leur appartement. Mais sur le plan de l'action efficace, c'est une imbécilité totale. La seule chose qui peut marcher, c'est une action collective. C'est-à-dire qu'il faut isoler les logements ville par ville.
Ouais.
Il faut au moins quartier par quartier. C'est-à-dire qu'il faut amener des centaines de spécialistes sur un quartier et il faut travailler tout le quartier. Et ensuite, il faut construire une politique stratégique en se disant qui peut payer, qui peut pas payer, comment on fait en sorte que même pour les ménages qui n'ont pas les moyens de payer les 10, 15 ou 20 000 euros de l'isolation de leur appartement, bien on peut prendre des hypothèques pour une vente future. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Il peut y avoir des subventions publiques, ainsi de suite. Et puis surtout, il y aurait un gain d'efficacité colossal. On sait qu'il y a 31 millions de résidences principales.
Oui.
Et sur ces résidences principales, il y a 8 à 9 millions de logements qu'il faudrait isoler extrêmement rapidement, les passoires thermiques. Et il faut travailler à un rythme de 450 000 à 500 000 par an. C'est un plan de 20 ans qui créerait des emplois pérennes.
À la fin, la conclusion, c'est toujours c'est l'État qui va payer.
Guillaume,
moi je dis juste aujourd'hui.
Tous ceux qui peuvent.
N'est pas faite.
Oui, mais
l'État n'est pas en mesure de payer tout ça.
Oui. Non, j'ai pas dit qu'il fallait payer. Je dis que seul l'État peut mettre en branle la machine qui permette de le faire.
Frédéric.
En fait, nos sociétés se retrouvent, à mon avis, confrontées face à un triangle d'incompatibilité qui est le suivant. On ne peut pas avoir en même temps trois choses. On ne peut pas avoir en même temps l'équilibre budgétaire et le souci des finances. On ne peut pas avoir en même temps le maintien d'un état social que l'on a. Et on ne peut pas avoir en même temps les investissements d'avenir. Donc les trois à la fois me semblent impossibles à tenir. Donc soit on garde l'état social et on fait la transition énergétique avec tous les investissements dont on parle. Alors là, la question des finances, de l'équilibre budgétaire, selon les choses, passe par la fenêtre. Soit on dit, ben, l'équilibre budgétaire et la maîtrise des finances publiques, c'est la chose la plus importante. Donc, il faudra voir redimensionner l'état social ou revoir les investissements d'avenir. Et on ne pourra pas avoir les trois. Et donc, je pense que c'est un vrai choix politique qu'il faut avoir. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, déjà, la décroissance subie et la précarité énergétique, les plus pauvres, dans les déciles inférieurs en termes de répartition des revenus, ben, ceux-là, ils la vivent déjà, hein, cette situation. Donc, ils la connaissent très largement. Donc, effectivement, c'est comment on fait, si on veut contenir la production, comment on fait à continuer à produire du revenu. Et comment on fait à la fin pour continuer à faire du revenu tout en voulant une croissance qui soit moindre. Et la réponse européenne, on voit bien qu'elle est confuse, puisque maintenant, chacun essaie un peu de se débrouiller en c'est fonction vrai. De ses moyens.
Elle nous en a donné une illustration avec ce plan de
les Allemands qui relancent la production d'électricité à la lignite.
Oui.
C'est bon, ça. Et la France a fermé des centrales nucléaires pour importer de l'électricité à l'électricité.
L'époque est ainsi faite. Hein, voilà. Bon, je ne vous sens pas très optimiste sur l'issue de cette COP27 qu'on va suivre, bien sûr, jour après jour.
Non, mais ça reste utile, hein, cet exercice.
Oui, parce que tout se passe...
Le fait que ce ne soit pas réaliste, ça détruit tout l'intérêt de l'exercice.
Il faut bien sauver la face.
Mais vous savez, c'est comme les G7, G20. Est-ce qu'il y a des décisions qui restaient dans nos mémoires inoubliables de toutes ces réunions?
On peut se souvenir de communiqués absolument insipides au bout du week-end.
C'est bien, tout ça c'est important parce que c'est sur l'agenda, mais concrètement.
On a le mérite de se causer, je vous dirais. Allez, 18h44, on marque une pause, on revient dans deux petites minutes et puis deux beaux sujets encore à évoquer dans un instant. Thierry Breton qui semble commencer à enterrer de ses mains l'échéance de 2035, vous savez, en Europe sur la fin des ventes de moteurs thermiques. Et puis Voyage Consuit qui a commencé tout à l'heure, très intéressant. Voyage d'Olaf Scholz, le chancelier allemand du côté de Pékin. On raconte ça dans un instant, à tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, le débat qui reprend sur BFM Business, 18h47 avec Guillaume Autier, avec Frédéric Farah et avec Christian Saint-Etienne. Donc cette interview de Thierry Breton, vous savez, qui a évoqué ce matin dans le journal Les Échos cette échéance de 2035 dont on parle régulièrement, hein, fin des ventes de véhicules thermiques en Europe. Mais il nous l'enterre de ses mains, cette échéance de 2035. Il commence par nous dire qu'il y a une clause de revoyure en 2026, c'est dans 3 ans. Et puis tout y passe, tout ce qui fait que cette réforme paraît intenable. Le prix des véhicules, les problèmes de bornes de recharge, les problèmes de pénurie de métaux rares.
L'impact social aussi, qui mentionne...
L'impact social, évidemment. Mais il enterre de ses mains, cette échéance-là.
Il est clairement en train de préparer les opinions, puis commence par dire, évidemment, qu'il respecte le choix démocratique, ce qui est en général, rhétoriquement, une bonne façon de dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, c'est un homme d'industrie, Thierry Breton. Ouais, ouais. Il connaît quand même ces sujets. Je pense qu'il est assez clair que l'économie européenne, je ne parle même pas à une échelle plus large, n'est pas en mesure de soutenir ce choc que représente le passage au tout électrique à horizon 2035. Il y a clairement deux gros enjeux. Déjà, il y a un enjeu évidemment de fabrication, je dirais, ça paraît le plus important, et en fait, c'est probablement le plus réaliste, considérer qu'on va fabriquer que des voitures électriques à horizon 2035 est probablement atteignable. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est qu'il faut de l'électricité pour les faire rouler, ces voitures. Voilà. Alors, il y a des études qui divergent. En gros, je pense que le consensus dit qu'il faut à peu près 20 à 25 réacteurs nucléaires en plus pour faire rouler les voitures électriques. Alors, c'est probablement atteignable à l'échelle d'une génération, 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, dire qu'en France, on va avoir 20 réacteurs en plus qui vont être opérationnels à l'horizon 2035 est clairement hors d'atteinte. Donc aujourd'hui, je pense que Thierry Breton, il a un rôle qui est plutôt à saluer, de commencer à préparer un peu l'opinion en disant soyons peut-être un peu plus réalistes dans nos objectifs. Ce qui ne veut pas dire y renoncer, mais avoir une vision un peu plus réaliste des choses.
Et puis, il faut des consommateurs qui soient prêts à suivre. Vous connaissez le proverbe qu'on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est un peu ça, Christian, quand même.
Il y a deux remarques complémentaires qu'on peut faire. C'est que les problèmes de transport ne sont pas les mêmes aux Pays-Bas et en France.
Oui.
La densité n'est pas la même. Quand on est à Bruxelles et qu'on veut aller à la mer, on y est en 45 minutes. Quand on veut aller sur la Méditerranée avec une voiture électrique, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc, il y a ce premier problème qui n'est pas pris en compte. Le deuxième, c'est que c'est une décision totalement idéologique. Effectivement, donner cet objectif pour 2050, pourquoi pas. On veut lancer 6 réacteurs nucléaires en France. Là, aujourd'hui, on nous dit que si tout va bien, le premier des 6 sera disponible en 2035.
Et encore, 2035, c'est pas sûr. Voilà. Quoi,
oui. Donc, on voit bien que c'est impossible. Et j'ajouterais simplement que pour moi, la seule bonne façon de faire, pour une fois, c'est la façon américaine, puisque Biden a dit qu'il allait tout faire pour favoriser la voiture électrique, ouais. Et que c'est un choix. Et que donc, si on était en 2035 avec 30 à 40 % de voitures électriques, ça serait très très bien. Ouais. Et la voiture électrique en Corrèze, ou très 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 beau département, ou dans le Puy-de-Dôme, ça n'a pas vraiment de sens.
Évidemment.
Surtout si vous êtes en hiver, ouais. Puisqu'à ce moment-là, l'efficacité de la voiture électrique et des batteries chute.
Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est en région parisienne et en région Rhône-Alpes, grande métropole, qui a le plus de bornes de recharge électrique aujourd'hui. Frédéric, à ce sujet, est-ce que vous dites vous aussi faut sortir de l'hypocrisie et repousser cette échéance de 2035, finalement?
Je pense qu'en fait, si vous voulez, cette affaire, c'est la poupée russe, quoi. C'est-à-dire que vous prenez la grande poupée qui est l'histoire de on arrive en 2035, il faut faire que des voitures électriques, et on ouvre là-dedans et on voit plein de problèmes et de plus petites poupées qui nous posent problème. La dépendance à l'égard des matières critiques, le fait que les batteries dans le monde ne sont pas fabriquées ici, le fait que l'Europe, en termes de stratégie, elle doit réfléchir peut-être à ses règles de la concurrence, elle doit peut-être réfléchir à la manière dont elle envisage son libre-échange, la manière, effectivement, dont elle va construire des filières au niveau européen pour pouvoir répondre à ça. Il va falloir aussi...
On n'est qu'au balbutiement de tout ça, c'est ce que je veux dire.
Voilà, donc, en fait, c'est un truc... qui s'en chasse. Hein. Vous ouvrez, il y a encore toujours une boîte, toujours une autre boîte, toujours une poupée qui pose problème. Et alors, on parlait des États-Unis. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, par exemple, dans le plan américain, si on me rapporte ça en euros, il est dit que l'État américain, on va dire ça en euros, est prêt à apporter une aide de 7 500 € d'aide à l'achat d'un véhicule électrique, mais c'est conditionné par le fait, effectivement, que 40 à 50% des minerais critiques incorporés viennent des États-Unis ou d'un pays avec d'accord de libre-échange avec, par exemple, le Canada ou le Mexique en tant que tel. Donc, par exemple, ça aussi, il va falloir qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Donc, ça implique quoi ? D'ouvrir une nouvelle boîte sur les règles de la concurrence, comment on fabrique des filières. Et donc, en fait, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les... Même si l'objectif est tout à fait entendable...
C'est exactement ce que dit Carlos Tavares. On met la charrue avant les bœufs.
Si l'Europe ne se réforme pas sur autre chose et sur des choses qu'elle invoque tout le temps, sa souveraineté, mais bon, ça me semble tout souvent bien creux, eh ben, si vous voulez, on va se retrouver dans la énième usine à gaz, comme l'Union européenne sait en fabriquer beaucoup, énormément. Et après, on va se retrouver, vous savez, comme c'est... Je lisais ces programmes de stabilité avec des échelons, des objectifs, des sous-objectifs, et qu'on prenne qui pourra.
Le coup usine à gaz, il est bien choisi en l'occurrence, parce que je pense que le vrai risque, ce serait de dire on tient cet objectif, on l'atteint un peu coûte que coûte, et là, ça veut dire qu'on devra faire appel pour faire tourner tous ces voitures et les faire rouler à de l'électricité d'origine fossile.
Oui.
Et on sait que d'ailleurs, tant qu'à faire appel à l'énergie fossile, autant la mettre directement dans le moteur des voitures. Parce que si on la transforme en électricité et qu'ensuite, avec cette électricité, on fait tourner les voitures, il y a une déperdition, il y a juste une transformation supplémentaire. Donc on perd à peu près 20 à 30% d'efficacité. Donc le bilan carbone serait plutôt plus mauvais avec 100% d'électrique, entre guillemets, mal atteint, avec une origine plutôt fossile de l'électricité. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire.
D'où le message de fond de Thierry Breton, ne tirons pas une croix tout de suite sur le thermique fondamentalement. Il nous reste quelques minutes pour dire un mot du voyage d'Olaf Scholz en Allemagne. Il est arrivé tout à l'heure, il a rencontré le Premier ministre Li Keqiang, puis il va rencontrer rapidement le président Xi Jinping. Comment est-ce qu'on résume ça? Il est un peu assis entre deux chaises, pour dire ça poliment. D'un côté, il faut maintenir les liens avec le partenaire commercial chinois. De l'autre, essayer de baisser un peu le niveau de dépendance vis-à-vis de la Chine. C'est quoi son objectif, là, Christian?
Non, mais là, c'est pour une fois, une continuité totale entre la politique conduite par Scholz aujourd'hui et celle d'Angela Merkel, qui s'est rendue 12 fois en Chine pendant les 16 années où elle a été chancelière. Donc Scholz continue la politique de Merkel. D'ailleurs, c'est le mot qui tourne actuellement dans les rédactions et dans les chancelleries en Allemagne. C'est le nouveau Merkel qui continue d'aller voir les Chinois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui est tout à fait extraordinaire, c'est que d'un côté, les Allemands veulent dépendre totalement pour leur sécurité des Américains, qui sont en fait en guerre avec la Chine de plus en plus affirmée, notamment depuis les mesures du 7 octobre sur les technologies. Donc, il y a une contradiction majeure qui a même été relevée par la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne. Et puis, il y a quand même un autre problème, c'est que depuis le dernier congrès en Chine, le pouvoir chinois apparaît de plus en plus totalitaire, de façon absolument stupéfiante, puisqu'il n'y aura même plus de discussion au sein du bureau politique, puisqu'il n'y a plus que des doubles de Xi Jinping. Donc on se retrouve avec une Allemagne qui se prétend démocratique. On l'a dit dans le segment précédent, qui fait fermer Fessenheim pour nous vendre de l'électricité à la lignite et qui veut à la fois faire des accords avec les Américains et continuer de vendre sa camelote à la Chine. Et tout ça, ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que l'affaiblissement de la France incroyable depuis 15 ans fait que le leadership en Europe est passé en Allemagne. Et l'Allemagne mène une politique allemande en Europe. Elle défend que ses intérêts. Elle n'a rien à foutre, pas seulement de la France, mais des autres.
Visite très controversée de Olaf Scholz en Allemagne.
Eric Dauphine, évidemment. Guillaume. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Christian. C'est-à-dire, je pense que fondamentalement, l'Allemagne construit sa sphère d'influence. D'ailleurs, elle n'a pas de sphère d'influence naturelle. Elle n'a pas des pays qui parlent allemand partout sur Terre. Donc, elle construit les partenariats stratégiques avec beaucoup de pragmatisme, le fameux pragmatisme allemand. Et je pense que face à ça, finalement, ce qu'on voit, c'est que le fameux couple franco-allemand est en train de voler en éclats. Il y a un désalignement stratégique extrêmement fort qui est apparu, on va dire, progressivement sur la question des finances publiques, et puis qui, avec la crise ukrainienne, finalement, apparaît vraiment au grand jour sur un sujet comme l'énergie, sur lequel il y a vraiment des positions très, très irréconciliables qui conduisent, sur les sujets industriels, les sujets énergétiques, l'Allemagne a noué, on ne va pas appeler ça des alliances, mais disons des proximités stratégiques avec des pays comme la Russie. Oui. On sait que la position allemande sur la Russie a été plus qu'ambiguë. Et maintenant, la Chine. Et je dirais, face à ça, le coup franco-allemand, je ne dirais pas que c'est dans les livres d'histoire, mais enfin, ça a été, on va dire, une belle vision politique de Gaulle et d'Adenauer. Maintenant, c'est plus devenu une fiction. Et voilà, il y a un vrai désalignement stratégique qui apparaît entre la France et l'Allemagne.
C'est la feuille de vigne qui cache l'effondrement français.
C'est de plus en plus le cavalier seul des Allemands en Europe.
La chose que tout le monde sait, mais comme si on avait besoin de le découvrir, existe-t-il un intérêt européen
c'est la question qui fâche. Mais voilà,
il n'y en a pas. Et en fait, tout le problème, c'est que la stratégie française ces dernières années, c'était quoi ? C'était moins de souveraineté pour espérer avoir plus d'influence en Europe et convaincre les Allemands qu'ils deviennent la locomotive de l'affaire. Bon, est-ce que ça a marché ? C'est un échec en tant que tel. Et aujourd'hui, on voit bien l'Allemagne aujourd'hui, son premier client, évidemment, c'est la Chine, nous. Donc, dans l'histoire, ça raconte effectivement l'effacement de la France. Et si on revoit au sujet précédent, comment voulez-vous, quand chacun fait effectivement des stratégies de passagers clandestins, vous voulez penser la souveraineté énergétique, alimentaire, patati patata. En fait, tout ça, c'est du bavardage. Et on retrouve ce problème fondamental de l'Union européenne depuis des années, c'est qu'elle a su défaire des vieilles régulations nationales pour ne pas vraiment faire naître des régulations européennes.
Allez, ainsi va l'Europe. Merci messieurs, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup d'être venus dans le grand débat sur BFM Business. Guillaume Mottier, le président du groupe Meilleur Taux, Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, et puis Frédéric Farah, économiste, chercheur, enseignant à Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup messieurs d'être venus. À très vite pour de nouvelles aventures. 18h57 dans un instant le journal. Et puis Frédéric Mazzella dans la foulée, les pionniers chez Fred Mazzella pour vous accompagner jusqu'à 20h. C'est Thomas Asportas et Audrey Tcherkov qui vous accompagneront dans Good Evening Business la semaine prochaine. À très vite pour de nouvelles aventures.